Les colloques du Collège de France.
Voilà, c'est mon plaisir donc d'introduire, de présenter le professeur Simon Schaeffer, professeur émérite à l'Université de Cambridge, au département d'histoire et de philosophie des sciences, où il a accompli l'essentiel de sa carrière. Simon Schaeffer, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'une des figures majeures du renouvellement de l'histoire des sciences. Dans les 40 dernières années. Je ne vais évidemment pas rappeler tous ces prix, dont le prix Erasmus ou le prix Dan Davis ou encore la médaille Sarton. De tout cela, je ne parlerai pas. Son nom, comme vous le savez, demeure souvent associé à Léviathan et la pompe à air, publié en 1985, traduit et publié en français en 1991, coécrit avec Stephen Chipping. Donc un ouvrage qui porte sur le XVIIe siècle, mais puisqu'il est question des Lumières, je voudrais dire que si on y prête attention, les Lumières constituent en réalité le fil conducteur de l'ensemble de l'œuvre de Simon Schaeffer, ressaisi opportunément dans une collection d'essais qui vient de sortir, Working Knowledge, qui vient de paraître aux presses de Chicago. Nous avons rappelé ce matin, rapidement, combien l'ouvrage collectif The Sciences in Enlightened Europe, publié en 1999, co-dirigé avec Ian Golinski et William Clark, avait marqué un tournant dans l'historiographie du XVIIIe siècle, en invitant en particulier à penser les sciences européennes comme un ensemble de pratiques, de cultures, de contextes. Ce livre a ouvert la voie à une histoire plus sociale, plus matérielle et plus connectée des savoirs dans la décennie qui a suivi. Pourtant, cette aventure intellectuelle avait commencé bien plus tôt, et je sortirai donc cette petite anecdote, dès 1980, dans un article intitulé « Natural Philosophy », publié dans « The Ferment of Knowledge », ouvrage dirigé par Georges Rousseau et Roy Porter, le jeune Simon Schaeffer, âgé alors de 25 ans, esquissait déjà une véritable leçon de méthode sur la manière d'aborder les sciences des Lumières. Il y dénonçait en particulier le caractère profondément anhistorique des approches dominantes. Pour sortir de cette impasse, il proposait déjà de mobiliser deux ressources théoriques majeures, l'anthropologie et l'archéologie foucaldienne. Les savoirs, expliquait-il, ne résultent jamais de la simple application d'une méthode rationnelle, ils sont le produit de médiations, de négociations, d'opérations, d'organisations. L'approche anthropologique permettait ainsi de restituer les savants dans leur réseau, leur cosmologie et leurs pratiques situées. Quant à l'approche inspirée de Foucault, elle invitait à penser la philosophie naturelle comme un ordre du discours spécifique, régi par ses propres règles de production de la vérité scientifique. Depuis lors, en ouvrant largement les fenêtres de l'histoire des sciences, Simon a contribué à faire apparaître de nouveaux acteurs, aussi bien les artisans que les go-betweens, mais aussi de nouveaux protagonistes non humains, instruments, objets, dispositifs techniques. Il a également participé à décentrer notre regard de l'Europe en inscrivant les savoirs dans des circulations plus vastes et en nous invitant à prendre la mesure des échanges, des confrontations et parfois des violences qui accompagnent la construction de l'universel. Je suis certain qu'une fois encore ce soir, il saura nous surprendre. Mesdames, Messieurs, veuillez vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue au professeur Simon Schaeffer.
Les Anglais sont toujours beaucoup derrière les Français, donc je vous invite à imaginer que c'est 17h30. À qui appartient la science des Lumières? On soulève ici des enjeux liés à la définition des frontières poreuses, sociales et disciplinaires, des problématiques de comparaison, de circulation et de connexion. Cette question, bien entendu, a été posée déjà par les Lumières eux-mêmes, souvent dans le contexte d'un lectorat urbain européen. Je cite, « comme savant devant le public qui lit ». Fin de citation. Selon la réponse célèbre de Immanuel Kant à la question des Lumières dans une revue berlinoise en 1784, comme Antoine Lilti a très bien signalé, c'était un texte qui s'adresse à un public plus large que celui des livres de philosophie. Nos propres thèmes aujourd'hui dépassent ces cadres. pour s'étendre à l'élargissement de la fabrique mondiale des sciences. Pendant cette mondialisation, le témoignage virtuel a compté. À cette échelle, les sciences devaient lier, comme vous voyez ici, à gauche et à droite, l'admiration à la réputation, comme la consommation dans les systèmes de marchandisation. Suivant l'apparition du mot « publicité » juste à la fin du XVIIe siècle, je cite « la publicité des sciences est au cœur du projet des Lumières », fin de citation, et bien avant, je souligne, bien avant celle du mot « vulgarisateur », en 1836, qui en annonce les résultats en demande. La possession des sciences était liée, très prochement liée, aux mesures pour les produire. Notre argumentaire commence par une citation de Voltaire, comme il faut. On imagine que le savoir devienne un bien commun. Mais, bien entendu, les choses n'étaient pas si simples. Dans son dictionnaire philosophique, Voltaire plaisantait sur le témoignage privilégié, surtout lorsqu'il s'agissait d'un fait qu'il niait. Le contraste entre ceux qui étaient capables d'accepter les faits et ceux qui semblaient vulnérables à l'erreur ou au mensonge étaient établis. Il s'agissait de la construction d'un corps social. Les illusionnés, les étrangers, les primitifs ne possédaient pas apparemment les compétences requises d'un monde factuel. Revenons à nos moutons. Juxtaposons cette distinction à celle très célèbre esquissée par Denis Diderot dans l'Encyclopédie. Pendant sa discussion si bien connue sur le merveilleux agneau tartare, agnus scythicus, ambiguement animal ou végétal, décrit par « des gens dont les lumières ne sont pas suspectes, crus par les premiers génies de leur tronc, mais en effet nuls », Diderot a proposé ce qu'il appelait des réflexions utiles contre la superstition. Il classait, comme vous pouvez voir, les faits selon leur permanence ou leur caractère transitoire et selon des critères géographiques et historiques des Lumières, d'accessibilité et de diffusion de connaissances. Considérons aussi l'importance de ces questions même de diffusion d'échelle mondiale dans la parabole « La chaumière indienne » dédiée à l'Assemblée nationale par le naturaliste, voyageur et écrivain Bernardin de Saint-Pierre. Bernardin déclarait avoir pour objectif de remédier aux maux dont l'humanité est affligée aux Indes. Fin de citation. Il envisageait un délégué anglais de la Royal Society of London envoyé en Inde armé de plusieurs milliers des interrogations. Je cite. « Si la philosophie est venue autrefois des Indes en Europe, pourquoi ne retournera-t-elle pas aujourd'hui de l'Europe civilisée aux Indes devenues barbares à leur tour ?» Point d'interrogation, fin de citation. Dans une inversion des hiérarchies indiennes, qui est très prochement liée à ce que Nathalie Vuillemin a appelé très justement l'éloge de l'ignorance chez Bernardin, le savant anglais, the fellow of the Royal Society, découvre le caractère rébarbatif des brahmanes et les vertus morales et épistémiques des intouchables. Ces jugements motivent les réflexions qui suivent. L'analyse débute par un épisode qui éclaire, j'espère, l'économie de la réputation à l'œuvre pour transformer une simple rumeur en un fait avéré. Il s'agit de la chute d'une météore dans le nord de l'Inde, où les contrastes entre lumière et lueur étaient remis en question. L'attention se porte ensuite sur la gestion de tels récits au sein du Paris des Lumières, où cette histoire indienne acquit une importance capitale. Oh, in English, that works. L'objectif est d'explorer comment l'ordre naturel et la connaissance sociale étaient mutuellement constitués au fin du siècle des Lumières. L'événement. Le matin du 28 Agun 1206, en calendrier grégorien, c'est-à-dire 21 décembre 1798, les habitants de la plaine du Gange, au nord de Benares, commencèrent à ramasser des pierres qui semblaient être apparues pendant la nuit. Un gardien rapporta qu'une pierre était tombée à travers le toit de sa hutte et s'était enfoncé de plusieurs pouces dans le sol de terre battu. Un laboureur nommé Bulle affirma « Au lever du soleil, je suis sorti du village, ma charrue sur le dos, pour labourer un champ de canne à sucre. Près de ce champ, j'ai vu un morceau de pierre sur la jachère. Surpris, je l'ai ramassé et emporté. Bulle apporta la pierre à son propriétaire, le zemindar, assis à sa porte. Le propriétaire la prit et la garda, disant qu'il la montrerait à tout le monde. Ces rumeurs suivaient précisément les contours des hiérarchies administratives locales. Le tessildar, c'est-à-dire le régisseur, Naik Singh a prélevé plusieurs échantillons de pierre. Selon le Qazi du district, c'est-à-dire le fonctionnaire des affaires juridiques, Saïd Hussein Ali, que je cite là-bas, dans un rapport signé et scellé de sa main, lorsque les villageois sont sortis pour emmener leurs troupeaux paître et surveiller leurs champs de maïs, ils ont aperçu des fragments de pierre qui étaient tombés. » Fin de citation. Le météore de 1798, pour ainsi dire, a très bien choisi sa trajectoire. Cette région était préoccupée par la diffusion du savoir et les mouvements des cieux. Benares, une ville de près de 200 000 habitants, était le centre spirituel et intellectuel de premier plan sous le régime moghol, avec des communautés de marchands, de pèlerins, de nombreux érudits en sciences juridiques et astrales. La ville accueillait non seulement des savants brahmanes venus de la vallée du Gange et de l'ouest de l'Inde, mais attirait également des experts indo-persans comme l'éminent magistrat de Benares, Ali Ibrahim Khan, qui, avec ses collègues, a analysé de très très proche l'histoire de la ville. Vers 1790, les berges du Gange, le fleuve sacré qui, comme les météores, au début est apparu en tombant du ciel, sont devenus un paysage rituel. Les intellectuels éclairés européens reprenaient la formule de François Bernier, le libertin érudit du XVIIe siècle, qui décrivait Benares comme la fène de toute la gentilité des Indes. Comme l'a souligné Stéphane Van Damme, ses commentaires s'inscrivait dans l'érudition cosmopolite pratiquée par les savants moghols situés à Benares. Dans La Chaumière indienne, Bernardin décrit son protagoniste, membre de la Royal Society, en visite à Benares, la fène des Indes, où il conféra avec les Brahmes. Et simultanément, précisément au même moment, l'éminent historien écossais William Robertson déclarait que Benares a été de temps immémorial l'Athènes de l'Inde, le siège à la fois de la science et de la littérature. Le soi-disant Athènes indienne devint un centre politique d'inquiétude quant à la fiabilité du savoir. Avec sa position stratégique sur le Gange, entre les territoires de la Compagnie anglaise des Indes orientales et le riche état de Awadh à l'ouest, Benares avait acquis son autonomie vis-à-vis Awadh au milieu du XVIIIe, et en 1775, le territoire passa sous le contrôle extrêmement fragile de la Compagnie. Aux frontières déchiquetées se jouèrent à Benares les défis du contrôle et de la mesure. Comme d'habitude, les Britanniques établirent leur comptoir à quelques milles à l'est de la ville, à l'écart de ses affaires. Benares, en fait, fut le premier État en Inde à connaître d'importantes révoltes contre la Compagnie en 1781, et puis de nouveau en 1799, quelques semaines, 15 jours en effet, après que la nouvelle des lueurs et des éboulements parvint à la ville. Les fonctionnaires britanniques qui avaient recueilli les rapports et les échantillons, comme le magistrat Samuel Davis, furent impliqués dans les violents événements de l'insurrection de 1799, lors d'un épisode que les Britanniques commémorèrent comme le Thermopylae de Benares. Selon les rumeurs, Davis avait repoussé ses adversaires avec une pique. Je crois pas. Pendant la révolte, les services postaux s'effondrèrent. Dans son analyse des systèmes de connaissance du nord de l'Inde, Chris Bailey définit ce qu'il appelle, c'est un terme très utile pour moi, les paniques informationnelles. Des réseaux indigènes souvent exclus des institutions officielles dans le cas des lueurs étranges ou des complots violents étaient alors perçus comme des foyers potentiels de résistance ou de menace dissimulée. Comme a très bien montré Kapil Raj, des recours aux experts autochtones, aux experts indigènes caractérisaient ces formes de savoir vulnérables. L'organisation de l'information à Benares a suscité des échanges sur les savoirs fiables. Des érudits jésuites avaient déjà bien retrouvé des tables astronomiques fabriquées à Benares utilisant le méridien de Benares. Selon le grand astronome Jean-Sylvain Bailly, qui a fait sortir son traité de l'astronomie indienne en 1787, et je cite, « Cette astronomie qui existe à Benares, qui a servi de règle et qu'on n'entend plus, paraît être l'astronomie originale et primitive de l'Inde. » Fin de citation. En réponse aux réclamations françaises et en collaboration, comme on voit à gauche, avec le savant pandit Radhakarana Sharma, Davis rédigea un commentaire sur les techniques astronomiques sanskrites à partir des textes du Jyoti Shastra, c'est-à-dire la tradition astronomique, obtenu à Benares par le résident britannique de la compagnie Jonathan Duncan. En dialogue avec un autre pandit, Kasinath Sharma, Duncan proposa la création par la compagnie d'un collège dans la ville afin de promouvoir l'étude de sanskrit en droit et en astronomie et de recruter des pandits pour fournir des textes administratifs fiables. En 1798, juste au moment du météore, Davis est devenu un des membres du comité du collège. Des crises d'autorité éclatèrent simultanément. Les pandits se considéraient comme des spécialistes commerciaux plutôt que comme des érudits désintéressés. Incroyable! Le secrétaire du collège de Benares, l'arpenteur Francis Wilford, collaborant avec un des pandits du collège, Vidyananda, aurait découvert, selon la rumeur, des événements bibliques, chrétiens et même des antiquités britanniques dans des anciens textes sanskrits. Il s'agissait bien évidemment d'un projet politique présentant le règne éclairé de la compagnie comme un retour des anciens ordres. Mais le pandit Vidyanand aurait falsifié ces passages précisément pour satisfaire son employeur britannique. Certes, surtout les Britanniques, y virent un complot mêlant la duplicité des brahmanes et l'athéisme des érudits français. Le pandit fut limogé, l'autorité de l'érudition de la compagnie compromise. Je vais omettre trois pages pour des raisons de l'horaire. 1, 2, 3. John Lloyd Williams, chirurgien chevronné à Benares, avec 12 ans de service à la compagnie, avait maintenu des très bonnes relations avec les administrateurs érudits à Benares, tels que Ali Ibrahim Khan. Après la chute du météore près de la ville, Williams retourna à Londres, devint membre de la Royal Society et lui en présenta un rapport. Le manuscrit du rapport est à droite. L'attention portée par Williams aux témoins européens plutôt qu'indigènes était justifiée par les contrastes qu'il essayait d'établir entre superstition et lumière. Et comme vous pouvez voir, voilà, les gens plus éclairés sont naturellement conduits à soupçonner l'influence de la superstition. Donc, William se limite à rechercher surtout le témoignage des Européens. Fin de citation. Il s'est appuyé sur son collègue à Benares, Samuel Davis. Selon Davis, la lumière lui parut égaler celle du clair de lune le plus brillant. Davis a ramassé plusieurs pierres tombées. Il déclara que les habitants avaient hésité à les ramasser jusqu'au matin, incertains si quelqu'une de leurs divinités n'avait pas participé à l'événement. Fin de citation. Et en effet, selon le texte en Jyotisha, c'est-à-dire astronomie et astrologie indienne, le plus hautement respecté, les météores étaient des formes tombées du ciel qui annonçaient des dangers sur Terre en fonction de leur figure et leur direction. Un autre résident européen remit à Williams un fragment de la pierre tombée à travers le toit de la cabane du gardien. Des échantillons furent transmis au gouverneur général à Calcutta et à son représentant à Benares. On la jugea, je cite, « le meilleur exemple authentifié du genre ». Et lorsqu'elle parvint à Paris, on affirma avec émerveillement que des pierres tombées près de Benares fixèrent l'attention de tous les physiciens de l'univers. Tous les physiciens de l'univers. Fin de citation. Deuxième partie. Grâce à Jeanne Pfeiffer, who est dans la salle. Si la question de notre colloque est « À qui appartient la science des Lumières ?» ici, je crois, la question était plutôt « À qui et à quoi appartiennent ces contes, ces lueurs, ces pierres, ces préjugés, ces superstitions ?» Comme le problème des Lumières, qui selon Kant était défini par le lectorat, ces questions préoccupaient les revues scientifiques européennes dont la diffusion, comme vous pouvez voir, avait si augmenté à la fin du XVIIIe siècle. Et je propose qu'il y a une corrélation assez faible, je crois, mais évident, entre la croissance assez dramatique des météorites et la croissance assez météorique des journaux savants. Les savants européens soutenaient presque unanimement qu'aucune pierre ne pouvait tomber du ciel. C'est une superstition. Des rapports des météores et les chutes ont été transmis par la presse, mais selon les élites scientifiques, parmi les Lumières, tous ces récits devaient être considérés comme des illusions. Parenthèse, il est intéressant en passant que le mot « lueur », qui avait longtemps désigné un éclat, a évolué au cours du XVIIIe, parmi les Lumières, pour signifier maintenant l'illumination soudaine mais passagère et, simultanément, la catégorie épistémique d'intelligence. Le rapport et les pierres de Benares furent bientôt diffusés à Paris, la métropole des sciences éclairées. L'histoire suscite rapidement de vives critiques dans les journaux, notamment de la part du naturaliste Guillaume-André Deluc et du minéralogiste et voyageur Eugène Patrin, bibliothécaire à l'École des Mines. Deluc a affirmé que la plupart des échantillons de fer présumés extraterrestres étaient en fait volcaniques. Patrin les a attribués aux effets de violents éclairs. Tous deux simultanément estimé que la rumeur, la renommée au son bouche, expliquait ces histoires. La plupart sont fondées sur des oui-dire ou des jugements de l'ignorance. Patrin a souligné que dans le récit de Williams de Benares, je cite, aucune des personnes qu'il nomme n'ont été les témoins du fait, et les uns et les autres ne font que rapporter ce qui leur a été raconté par les gens qui sont pour le moins insignifiants. Donc on peut voir le dialectique. Les rapporteurs sont européens, mais ils ne sont pas témoins. Les témoins sont indiens, donc ils ne sont pas fiables. Ça, c'est l'argumentation. Patrin a rejeté l'histoire selon laquelle une pierre serait tombée à travers le toit d'une cabane de gardiens. Ces hommes de Gué sont des esclaves ou autres serviteurs. Il semblait plus plausible que le gardien ait concocté cette histoire simplement pour impressionner son maître, comme le cas Wilford. Les liens entre témoignage et statut social semblaient déterminants. La réputation de Williams fut défendue contre Patrin par l'émigré minéralogiste Jacques-Louis de Bournon, dont les liens avec la communauté parisienne des savants et des journalistes furent assouplis pendant la paix d'Amiens. Bournon a rétorqué que Patrin n'avait vu aucun échantillon des météorites tombées, de plus utilisant presque les mêmes termes de Voltaire. Bourdon a observé, comme on voit ici, que comme des pierres tombaient dans les champs, les témoins étaient inévitablement de conditions modestes. Mais, il y a toujours un mais. Bourdon et ses collègues disposaient d'un atout qu'ils considéraient comme décisif. Un récit indien incontestable. William Kirkpatrick, officier politique de la compagnie, expert en persan, fournit à la Royal Society la traduction d'un passage des mémoires de l'empereur moghol Jahangir, qui semblait décrire précisément un tel événement. En 1030 de l'année de Hijra, c'est-à-dire 1621, des rapports de Punjab firent état d'un bruit assourdissant dans le ciel et de la chute d'un objet brillant sur terre. Jahangir fit consigner l'événement dans sa chronique, la Jahangir Nama. L'objet fut récupéré par un collecteur d'impôts et l'orfèvre impérial reçut l'ordre de fabriquer deux épées, un poignard, celui-ci, et un couteau à partir de ce fer foudroyé. On doit rappeler la Kaaba à la Mecque, réputée selon certains une pierre tombée du ciel. Le monde atteignit l'ordre grâce au monarque conquérant, écrivit le poète de la cour, Saïda, car sous son règne, du fer brut tomba de la foudre. Mais, deuxième mais, même ce récit impérial distribué très largement à Paris, ne convainquit pas les critiques. De Luc affirmait que le nord de l'Inde était plein des charlatans munis des bâtons armés de fer censés être venus du ciel et capables de contrôler le temps, le pluie surtout. De Luc citait également les histoires des Moghols qui décrivaient Jahangir comme plein de superstitions et de vaines craintes. Il était bien facile d'en imposer à un prince de ce caractère. À l'inverse, les promoteurs de l'histoire de Jahangir la considéraient comme une fée authentique, car l'empereur Jahangir n'était pas un prince sur lequel ses courtisans se seraient permis d'imposer leurs idées. L'évaluation de la culture orientale s'accompagnait d'arguments sur la réputation des sciences des Lumières. À ce moment-là, le jeune physicien Jean-Baptiste Biot, client de Pierre-Simon Laplace, insistait immédiatement contre De Luc que les anciens prêtres indiens étaient véritablement capables d'attirer la foudre du ciel avec des tiges de fer mises à la terre. Les paratonnerres se sont trouvés donc confrontés à la réalité des météorites. Il ne faut pas mépriser les témoignages des anciens, et cela peut s'appliquer avec quelques raisons à ce qu'ils racontent des pluies de pierre. Laplace était tout de préoccupé à ce moment-là par l'ancienneté supposée de l'astronomie indienne, et ils commencèrent à partager l'idée que les météorites pourraient être d'origine lunaire. Avec cet commentaire sur la fabrique morale du fer météoritique, des membres de l'élite de la physique parisienne affirmaient que les anciens experts indiens possédaient des paratonnerres. Et il fallait donc se fier aux témoignages indiens sur les météorites. À la fin de l'ancien régime, les débats sur les paratonnerres, selon Jessica Riskin, sont devenus, et je cite Jessica, un procès sur les lumières et la superstition, le droit de propriété et l'abus de pouvoir. Fin de citation. De même, la plausibilité des lueurs des météores dépendait des jugements sur l'ordre social et son histoire. Les sciences des Lumières ont eu recours à au moins deux ressources pour essayer de résoudre de tels conflits. L'appel à la superstition populaire et à l'imagination à la mode. Comme John Lloyd Williams, les savants des Lumières ont discrédité les doctrines vernaculaires en les qualifiant de superstitions. Le sens de ces accusations évolua considérablement à la fin du XVIIIe. Arlette Fage et Peter Burke ont montré que la superstition passa de la désignation de systèmes de croyances puissants, hostiles, étrangers, pour devenir l'étiquette d'erreur commune, inférieure, absurde, faible. La superstition était ainsi jugée propre à la plèbe et aux paysans. Il ne s'agissait pas d'une lutte entre ennemis crédules et amis sceptiques des Lumières, mais plutôt d'une lutte pour le droit de parler au nom des Lumières. Ces catégories jouèrent un rôle important dans la diffusion du récit de Benares quand il s'arrive à Paris. Le rapport de Williams y fut rapidement publié par le médecin et galvaniste Joseph Izarne. Ce récit indien occupant une place de choix, le catalogue d'Izarne recensant les rumeurs et les histoires réputées concernant les chutes de pierre dédiées à Laplace, portait le sous-titre, c'est un sous-titre magnifique, « Lithologie atmosphérique ». Ils ont distingué le scepticisme hâtif à l'égard des croyances populaires de la passion enthousiaste pour les merveilles. Les paysans, dans leur grande simplicité, étaient des témoins beaucoup plus dignes de confiance des phénomènes extraordinaires, précisément parce qu'ils pouvaient difficilement les imaginer. La force démonstrative exigée d'un fait public était ainsi intriqué avec la constitution de son public éclairé, qu'il soit idéologiquement inclusif ou socialement exclusif. À ce moment-ci, si j'ai eu le temps, je voudrais vous présenter mes réflexions sur deux autres cas. Le mouvement perpétuel est, bien sûr, l'inoculation. Donc, vous devez imaginer mon discours super intelligent sur ces deux cas. La crise des météorites illustrait la manière dont rumeurs et réputations étaient gérées dans les sciences de la fin des Lumières. Comme l'a montré l'épisode de Benares, la portée de ces récits se mesurait simultanément en termes géographiques, temporels et sociaux, par l'éloignement du lieu où se déroulait l'histoire, par le pouvoir des traditions anciennes, par le statut des conteurs. Ces critères étaient appliqués aussi bien en Europe qu'en Outre-mer. Mais, pour la troisième et dernière fois, l'opinion savante se rallia en quelques années seulement à l'existence des météorites. Les lumières ont changé. En 1793 et 1794, sans jamais en avoir vu une seule, le physicien Ernst Chladni à Göttingen chercha à prouver que les pierres tombant du ciel étaient réelles. Ces idées furent rapidement diffusées par les revues des Lumières, mais les critiques de Chladni, tels que Alexander von Humboldt, affirmaient qu'ils se fondaient uniquement sur des fables, sur des rumeurs, non sur une analyse scientifique. Nul doute que la capacité des colporteurs de rumeurs à ériger leurs affirmations en fait dépendait largement du contexte socio-géographique. L'histoire des sciences des Lumières s'est trouvée mêlée à cette explication rétrospective de la façon dont un fait évident avait été si longtemps nié. Son acceptation à ce moment-là fut comparée aux démonstrations de paratonnerre par Franklin ou à l'analyse de la composition de l'eau par Lavoisier. Nos historiens, en contraste, vous avez ici le table fascinant que Izan a construit des opinions variées sur l'origine des météorites nos caractères distribués de Luc, Patrin, Chladni, Bio. Nos historiens, en contraste, ont proposé toute une gamme d'explications quant au changement assez soudain de la réalité des météorites à la fin des Lumières. Certains ont salué la polémique de Chladni, comme si le dogme des élites avait été, je ne connais pas comment, bouleversé par un projet philologique visant à rassembler des témoignages provenant de bibliothèques et de musées sans aucun rencontre avec des lueurs réelles. Les autres historiens ont largement mis en avant les analyses entreprises dans leurs laboratoires par des chimistes et les minéralogistes tels que Bournon et Louis-Nicolas Vauquelin, qui ont analysé des échantillons de Benares pour démontrer avec des autres échantillons des autres météorites qu'ils présentaient tous une composition et une forme similaires en fer et en nickel. La clôture du débat sur les météorites constituerait peut-être un argument, donc, en faveur du passage du travail au terrain, au 18e, au labo, au laboratoire, une réalisation majeure de la soi-disant deuxième révolution scientifique. Donnez-moi un laboratoire et je déplacerai des météorites, pour ainsi dire. Il y a des meilleures raisons, à mon avis, d'insister plutôt sur les déplacements au-delà, extérieurs à des murs des laboratoires. Considérez les travaux de terrain très célèbres menés par Jean-Baptiste Biot sur la chute spectaculaire d'une météorite très connue à l'Aigle en Normandie en avril 1803, analysée de façon convaincante par mon cher collègue Mathieu Gounel au Musée d'Histoire Naturelle. Au moment précis où il défendait des empereurs moghols et l'existence des paratonnerres anciens indiens, Bio rassembla des échantillons et des rapports provenant d'une foule de témoins. Il a transformé une carte locale à gauche, la toute première carte de distribution des météorites fabriquées en Europe, en document public à droite. Ces tactiques correspondaient précisément aux critères de Voltaire pour un miracle ou à ceux de Bournon pour une chute de pierre, comme si les cartes de la chute de la météorite pouvaient donner à une rumeur une réputation. Mathieu Gounel insiste, et à mon avis c'est juste, sur l'intégration de l'enquête de Bio au vaste système de recensement de l'État bonapartiste par année par des ministres de l'Intérieur, tels que Laplace, Chaptal. Ce système, exploitant les techniques cartographiques, visait à réduire explicitement les habitants à des objets, à des chiffres d'ordre. Cet argument rejoint pleinement les analyses de Marie-Noëlle Bourguet sur les méthodes de collecte des données à ce moment-là. Des rumeurs douteuses se muent en statistiques crédibles. Ces projets étaient également mis en œuvre pour la surveillance et l'exploitation des données dans le nord d'Inde. Les références aux bibliothèques et aux journaux, aux musées et aux relevés topographiques évoquent précisément, à mon avis, le même éventail d'institutions que Benedict Anderson, éminent historien de l'Asie, considéré comme ayant, je cite profondément façonné la manière dont l'État colonial concevait sa domination, la nature des êtres humains qu'il gouvernait, la géographie de son territoire et la légitimité de ses origines. » Fin de citation. Les récits et les pierres de Benares retraçaient l'histoire de l'administration fiscale et des levées cadastraux des Moghols et de la Compagnie des Indes orientales. La réputation des rumeurs était, je crois, proportionnelle à la sécurité apparente de ces entreprises coloniales. Des savants des Lumières, comme vous pouvez voir ici, l'avaient déjà exprimé avec éloquence dans son étude historique sur la pensée des Lumières concernant les météorites. Pierre Bigot de Morogue, formé à l'École des Mines, accordait une importance particulière au Benares. Il compara les récits français des années 1790, dédaignés par les hommes les plus instruits, avec la réponse aux récits de Benares, qui, selon lui, avait attiré l'attention de tous les physiciens du monde entier. Fin de citation. Si le récit de l'aigle avait fonctionné parce qu'il rapprochait le site à l'élite scientifique, dans le cas de Benares, l'effet archimédien de levier ou la distance donnée la puissance a apparemment été intégré dans l'ordre informationnel de l'Inde colonisée et depuis mobilisée dans l'Europe éclairé. Bigot de Morogue souligne que, je cite, « les fonctionnaires indiens et anglais certifièrent de la manière la plus authentique cet événement. » C'est ainsi, enfin, que Boule, laboureur de Gopalpur, devint en quelque sorte et pour quelques moments une autorité scientifique parmi les savants parisiens. Pour allonger la liste des acteurs, pour ainsi dire, des sciences des Lumières, il faut faire attention à la géopolitique tendue des gouvernementalités et de la surveillance. Coda. Les questions de diffusion sociale et les questions d'échelle étaient essentielles. La gestion des connaissances sociales a accompagné la réorganisation de l'ordre naturel. C'est ça mon argumentation aujourd'hui. Il est possible de tracer cette réorganisation parmi les transformations de l'aboutissement des Lumières, telles que l'interdiction du mouvement perpétuel, l'adoption de l'inoculation et les cas de météorites. Les mesures dans les deux sens, évaluation quantitative, stratégie politique, fonctionnaient sous des régimes autoritaires en Europe et en Inde. Ces mesures s'accompagnaient finalement de systèmes d'expropriation, les merveilles comme marchandises. Réfléchissons pour la dernière fois sur le destin des aérolithes indiens. En février 1815, quand les Français sont occupés ailleurs, quelque chose de très important se passait en Inde. Dans le territoire du Raja de Patiala au Punjab, des paysans entendirent, encore une fois, un bruit assourdissant et virent un grand corps noir s'enfouir dans le sol. Les brahmanes l'enveloppent de couronnes de fleurs et projetèrent de lui construire un temple digne de cette merveille. Mais la pierre fut réquisitionnée par la Compagnie des Indes orientales et expédiée immédiatement au musée de la Compagnie à Londres. Le commissaire aussi bien que les brahmanes, le commissaire M. George Bird, c'est un animal qui vole. Le commissaire aussi bien que les brahmanes estimait que cette pierre venait du ciel. Il était absolument d'accord. Mais il divergeait profondément sur l'endroit où elle avait le mieux sa place. Maintenant, à qui précisément appartient la science des Lumières? Les parcours de ces objets remarquables apportent au moins une réponse impressionnante. Merci pour votre patience.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.